Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Après la rentrée politique, la rentrée sociale, la rentrée des classes, la rentrée littéraire, la rentrée sportive, c'est la rentrée de la grande tchatche sur les ondes de la grenouille. Une fois n'est pas coutume, Rafi Hamal, le co-animateur de cette émission, n'a pas pu être parmi nous. Humble rédac-chef du mensuel Le Ravi, me voilà donc contraint de présenter solo ce rendez-vous. Ce n'est pas grave. Je suis une coopérative à moi tout seul. Ce qui m'emmène à l'essentiel, notre invitée, j'ai nommé Sophie Camard. Pour démarrer cette saison, il nous fallait en effet frapper fort. Mais plutôt que de convier Marion Maréchal, nous voilà Le Pen, déjà très sollicitée sur toutes les radios et les télévisions, nous avons donc préféré Sophie Camard. Je répète pour les auditeurs distraits, Sophie Camard, la tête de liste désignée par Europe Écologie Les Verts en PACA pour les élections régionales qui auront lieu en décembre prochain. Loin de vous plaindre de votre déficit de notoriété, vous le revendiquez. Votre objectif, expliquez-vous, est celle d'incarner une ambition collective, une région coopérative. Et pour ce faire, rien ne sert de cumuler les galons et les mandats. Sophie Camard, vous n'êtes ni députée, ni sénatrice, ni maire. Vous êtes toutefois élue conseillère régionale sortante. Et vous avez, nul n'est parfaite, de titre de présidente, co-présidente depuis 2013 du groupe EELV à la région et présidente de la commission emploi-développement économique du conseil régional. Donc, une tête de liste normale, mais je crois que quelqu'un d'autre a déjà fait le coup, qui se présente comme une citoyenne ordinaire, une indignée du quotidien. Sophie Camard, si je répète une fois de plus votre nom, on va m'accuser de faire du placement de produits. Vous continuez d'exercer un métier en dehors de celui de la politique. Vous conseillez les représentants du personnel dans un cabinet d'expertise intervenant auprès des comités d'entreprise. Née au Havre, où vous avez grandi, vos études vous mènent à Paris, où vous intégrez Sciences Po dès vos 17 ans. Vous auriez donc pu entrer à l'ENA pour vos 20 ans. Mais vous préférez opter pour un doctorat en sciences politiques. L'ENA, on a eu peur, ça aurait gâché votre CV. C'est votre métier qui vous conduit à Marseille dès 2013. Et c'est le syndicalisme étudiant qui vous mène en politique d'abord dans la mouvance de la gauche, puis en adhérant aux Verts au lendemain de la victoire de Sarkozy. Vous êtes toujours membre d'Europe Écologie, qui existe toujours, mais vous comptez parmi ceux qui, à Marseille, aux dernières municipales, ont soutenu la candidature de Pape Diouf. Vous avez ainsi participé activement à la rédaction du contrat citoyen des listes Changer la donne. Sophie Camard, il nous faut pour finir tout de suite prévenir les auditeurs que vous êtes aussi l'inventrice, du concept de tête de liste recyclable. Votre candidature, au-delà de 2LV, est déjà soutenue par le parti de gauche et par Ensemble, des composantes du front de gauche. Des discussions se poursuivent, et semble-t-il, on va en parler, vont aboutir avec le parti communiste pour faire alliance. Également soucieuse de fédérer la société civile et des citoyens coopérateurs, vous êtes prête à partager votre leadership, sauf avec le Parti Socialiste avec lequel vous excluez une alliance au premier tour. Reste donc à définir les contours forcément circulaires de votre programme et de vos alliances pour mener à bien la transition citoyenne dont vous portez la parole. Je résume pour conclure, Sophie Camard, une candidate biodégradable mais durable.
Bon, bah vous avez tout dit, on peut s'arrêter là en fait.
Voilà, on a quand même un petit moment pour discuter, peut-être d'ailleurs sur cette question des alliances et de votre campagne et de comment elle démarre. Il semblerait donc qu'un nouveau partenaire vous rejoigne donc dans cette entreprise coopérative.
Oui, alors je vais faire un point aujourd'hui, sachant que... Au moment où l'émission sera diffusée, je pense qu'on aura définitivement avancé.
Voilà, on est mardi, 17h30 pour les auditeurs, voilà. Mais on enregistre quelques jours avant cette émission.
Voilà, donc on devrait effectivement y voir beaucoup plus clair d'ici la fin de la semaine. Bon, notre idée, pour ces élections régionales est effectivement de faire une liste autour d'un concept rassembleur qu'on a appelé la région coopérative. Et cette liste qui porterait cette nouvelle façon de gouverner la région et ce nouvel espace politique qu'on veut créer serait constituée de trois composantes. Une composante écologiste, une composante sociale et une composante citoyenne. Donc dans la liste que nous sommes en train d'élaborer en ce moment, il y a forcément donc des représentants d'Europe Écologie Les Verts, voire peut-être d'autres mouvances écologistes. Des représentants du Front de Gauche dans toute la diversité du Front de Gauche, Parti communiste, Ensemble, Parti de Gauche. Et puis, on tient bon, et j'y tiens beaucoup, sur le processus citoyen et le fait d'avoir des candidats éligibles, même parmi les têtes de liste départementales, qui soient d'aucun parti et qui représentent des thématiques importantes comme la culture à Avignon, l'agriculture biologique. Bon, donc on est en contact aussi avec des personnalités hors parti politique pour finir de constituer cette liste.
Alors, et donc, clairement, vous avez pris du retard dans le calendrier. Mm-hmm. Pourquoi ? C'est compliqué de mettre en place un pareil attelage ?
Alors, le retard, bon, moi j'ai la chance d'être désignée tête de liste Europe Écologie Les Verts depuis le 20 juin, j'ai mon compte de campagne, je me déplace, donc je fais la campagne aujourd'hui, je réponds à toutes les interviews, je me déplace comme tout à fait normalement, comme effectivement on doit le faire dans une campagne électorale, donc je pense que ça évite de prendre du retard. Par contre, effectivement, on pensait boucler plutôt l'accord avec tout le front de gauche. Mais ce n'est pas si facile puisque c'est un mouvement qui est traversé par beaucoup de discussions, notamment entre le Parti communiste, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. On a eu aussi l'impact de la rentrée politique, la fête de l'humanité, la rentrée politique de Jean-Luc Mélenchon qui font qu'à un moment donné, on avait bien avancé localement. Et puis PACA est devenu un enjeu dans des discussions nationales. Voilà, puis donc finalement on s'est tous remis autour de la table et donc on essaye de finaliser l'accord cette semaine pour que chacun soit bien représenté dans l'équilibre le plus juste possible.
Donc vous devriez rester tête de liste de cette liste
oui.
Pastèque, disent les mauvais esprits.
Bon, moi j'aime bien les pastèques donc ça me dérange pas. Je préfère le rouge et le vert que le brun et le bleu marine. Non, oui, bien sûr, on devrait boucler tout ça dans la semaine.
Sophie Camard, numéro 1, Jean-Marc Coppola, numéro 2, c'était un scénario réaliste ?
Oui, donc on fera une campagne en binôme. Par exemple, dans l'intitulé de la liste, ça devrait être une région coopérative avec Jean-Marc Coppola et Sophie Camard. Ensuite, sur les Bouches-du-Rhône, l'idée serait qu'il y ait une tête de liste Front de Gauche. Moi, je porte en fait administrativement la campagne en tant que tête de liste pour la campagne des régionales.
Si on repart en arrière, lors des dernières élections régionales, ça n'avait pas été possible, cette alliance. Il y avait eu un Front de Gauche d'un côté, les Verts de l'autre. C'était Laurence Wisniewski qui conduisait la liste. Qu'est-ce qui fait que la donne politique a changé ? Pourquoi cette alliance ?
Alors, c'est bien que vous le rappeliez qu'il y avait des listes distinctes au premier tour en 2010, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions sur pourquoi toute la gauche n'est pas rassemblée.
On va y venir, je vous rassure.
Après. Et à chaque fois, je rappelle qu'en 2010, la gauche avait gagné alors qu'il y avait trois listes distinctes, effectivement, au premier tour. Bon, c'est vrai que le contexte politique est complètement différent. Rappelez-vous, en 2010, c'était Nicolas Sarkozy au pouvoir. Il y avait une forte montée des écologistes. Nous, on sortait du succès d'Europe Écologie Les Verts aux européennes. Je me souviens que c'était une grande époque pour nous. Et du coup, il y avait peu de discussions sur des alliances. En fait, on était dans notre dynamique d'autonomie à l'époque. Et chaque sensibilité de la gauche se sentait assez libre à l'époque de se présenter devant les électeurs pour ce qu'ils représentent. Je dirais qu'aujourd'hui, forcément, le contexte est beaucoup plus sombre avec cette montée du Front National et surtout, je dirais, de l'abstention. Nous, ce qui nous a préoccupés et ce qui nous permet aussi de nous rapprocher aujourd'hui, c'est déjà qu'on porte le même diagnostic. Après, on peut discuter des solutions. On a effectivement certains points, certaines propositions à travailler ensemble où on est plus ou moins d'accord. Mais par rapport, je dirais, au Parti Socialiste, on s'est retrouvé déjà sur le constat qu'il fallait reparler aux électeurs déçus de la gauche, à ceux qui ne votent plus, à ceux qui étaient un peu dégoûtés de la politique spectacle. Et du coup, repartir voilà, de manière assez simple et honnête en direction des citoyens pour proposer une alternative en fait à ces élections régionales. Donc c'est quand même ce diagnostic fort du rapport aux abstentionnistes, aux citoyens qui sont un peu détachés aujourd'hui de la chose publique qui nous rassemble. Et ça fait déjà beaucoup. Ensuite, on a pu avancer entre nous effectivement sur des propositions que l'on connaît déjà, puisque c'est vrai qu'on se connaît déjà au Conseil régional, donc on sait déjà ce qui peut faire accord et désaccord entre nous. On s'est retrouvés sur les questions des migrants, des réfugiés, par exemple. on a pu avancer sur les questions des transports ou d'énergie, parce que je reconnais que le PC a fait des efforts. Ils sont arrivés avec un texte sur la transition énergétique.
Ils sont toujours partisans d'ITER, par exemple, pour prendre un dossier.
Ça fait partie des points, je pense. Rappelez-vous, enfin non, je pense que personne ne s'en souvient, mais ils se sont abstenus sur le dernier budget en disant que il y avait ITER et que ça coûtait trop cher, ce en quoi on leur a dit, on est bien d'accord avec vous. Donc il est possible qu'on se mette d'accord pour qu'on ne reconduise pas le financement à ITER au-delà de 2017, qui est la fin du contrat. Après, on n'a pas de centrale nucléaire en PACA. Et puis, on peut être d'accord, en fait, sur le fait qu'après tout, on est la région, elle est là pour développer les énergies renouvelables, faire de l'efficacité énergétique avec les bâtiments. Ça, c'est plutôt consensuel, malgré tout. Donc, voilà, je pense qu'on peut avancer.
Alors, je reviens quand même sur la question de la non-alliance avec le Parti Socialiste au premier tour. Mmh. Il y a un candidat, Christophe Castaner, qui n'a pas arrêté de vous tendre la main, en tout cas, de déclarer qu'il vous tendait la main, et qui dit, mais on a mené 18 ans d'action commune, les différences de programme sont minimes, pourquoi ne pas se retrouver dans le contexte que vous décriviez, c'est-à-dire assez sombre, avec une région qui menace de passer à droite, voire à l'extrême droite?
Parce que je pense qu'il faut retrouver une liberté de parole, une sincérité du discours, et que les électeurs, ils votent avec leurs préoccupations du moment. Nous, certes, on a pu travailler ensemble, on n'est pas du tout des sectaires et des irresponsables, certains veulent bien le dire, mais les deux dernières années ont été difficiles pour boucler le budget à la région, par exemple. Et moi, on peut reprendre toutes les interventions que j'ai faites à la région. Le choix qui a été fait par le gouvernement de donner des milliards d'euros de crédit d'impôt, compétitivité, emploi aux entreprises d'un côté, sans créer de l'emploi, et de nous baisser les dotations aux collectivités locales, je peux vous dire que ça devient compliqué de boucler les budgets. Ensuite, il y a par exemple aussi la loi Macron, qui est connue dans beaucoup de domaines. Elle touche très concrètement la région, dans la mesure où par exemple elle libéralise le transport d'autocars, et c'est en train de concurrencer nos propres lignes d'autocars régionales et les TER. Il y a des choix comme ça, je n'en cite que deux, mais il y en a d'autres, qui font qu'aujourd'hui, on avait besoin aussi de construire un projet régional qui soit indépendant de cette conjoncture gouvernementale qui nous déplaît fortement. Ensuite, il y avait aussi, tout simplement, et j'en reviens à des considérations plus locales ici, puisque je suis conseillère régionale, je me suis aperçue à la région que le PS partait perdant. Il y a eu, c'est vrai, pour eux, le choc qu'ils pensaient que Michel Vauzel repartirait, ce qui n'est pas le cas. J'ai senti qu'il n'était pas du tout prêt à l'alternative et qui partait perdant. Et on s'est dit, nous les écologistes, si on part derrière un parti qui déjà porte cette politique gouvernementale avec laquelle on n'est pas d'accord et qui en plus part perdant avec une fédération socialiste des Bouches-du-Rhône qui n'est pas en ordre de marche, on va dire comme ça, de manière ça, je vais rester diplomatique. On s'est dit que c'était pas un scénario gagnant. Donc on s'est dit, il faut peut-être être un peu courageux aussi et partir dans une démarche d'innovation, de recréer un nouvel espace politique, d'essayer de reparler aux citoyens qui ne votent plus et effectivement de faire une liste citoyenne, sociale et écologiste. Donc c'est pas hostile forcément à la personne de Christophe Castaner ce que je dis, c'est juste un choix politique d'avoir cette liberté de parole et puis de renouer avec une gauche de conviction.
Vous pensez que ça peut créer une dynamique parce que tout le monde s'attend à ce qu'au deuxième tour, il y ait finalement une alliance et une forme. Vous avez géré la région ensemble, vous assumez une partie de ce bilan, vous vous projetez, j'imagine, toujours en gouvernance et avec les forces qui seront en présence, donc y compris le PS.
Ce qui peut créer une dynamique, c'est la nouveauté. La nouveauté à gauche, c'est notre stratégie, c'est notre décision aujourd'hui. Je crois que, bien sûr, nous assumons une partie du bilan à la région, mais comme la dernière fois où vous l'avez rappelé, il y avait trois listes en autonomie et ça n'a pas empêché la gauche de remporter les élections régionales. Et une fois de plus, vous voyez bien que, qu'on le veuille ou non, on ne va pas parler que des politiques régionales à ces élections. Il y a beaucoup d'électeurs qui vont voter en fonction des considérations du moment, je le répète. Aujourd'hui, la politique, ce qui travaille, je le vois bien sur le terrain, dans la tête des gens, c'est ces questions des réfugiés, cette question de la guerre, cette question de la crise financière, de la place de la France, ça cogite beaucoup dans les cerveaux. Donc bien sûr, nous, notre rôle, il est de parler de la région et de redire ce qu'on peut faire avec les politiques régionales, mais je crois qu'on ne peut pas simplement s'arrêter là. La politique, ce n'est pas que la gestion de la région, parce que la gestion de la région, avec ça, ce n'est pas forcément ce qui est le plus mobilisateur pour l'électeur. C'est aussi de proposer un projet politique global et de donner une vision d'avenir, de porter des valeurs. Il y a beaucoup de gens qui me disent, à ces élections au mois de décembre, ça va être une élection sur les valeurs, par exemple. Et du coup, voilà. Donc, si c'est une élection sur les valeurs, il faut d'autant plus être libre d'exprimer ce qu'on a à dire.
Donc, vous assumez une partie de dimension nationale dans l'élection qui démarre.
Ah bah, elle sera là, d'ores et déjà, de toute façon. Et ce que je comprends pas tellement dans ce que nous dit le Parti Socialiste, c'est que lui aussi, il nationalise l'enjeu, en fait. Il est le premier à le faire.
Alors, y compris au sein des Verts, toujours sur la question des alliances, de la stratégie et de l'enjeu national qui va se jouer autour de cette région PACA, comme dans le Nord, il y a la question du danger de l'extrême droite, mm-hmm. et de ce qu'il faut faire ou ne pas faire face à ça. Le pari, c'est d'assumer, d'apparaître divisé peut-être à gauche pour essayer de remettre en mouvement des électeurs qui se désengagent de la politique, plutôt que de vouloir afficher une union d'appareils et de circonstances dès le premier tour. C'est ça le raisonnement.
Donc pour moi, ce n'est pas une stratégie de division, c'est une stratégie de mobilisation. Et si on compare avec 2010, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est plutôt un rassemblement pour le coup. Puisque Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche et des citoyens, ces trois composantes dont je parle, il n'y aura pas beaucoup de régions non plus où on sera dans cette configuration-là. Donc je considère qu'en PACA, on est plutôt responsable dans notre volonté de nous rassembler. Et si ça prend un petit peu de temps aussi entre Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche, c'est bien aussi que c'est du sérieux, comme on dit, et qu'on essaye vraiment d'y arriver, parce qu'on est conscient des enjeux. Donc je trouve que justement, c'est plutôt nouveau, c'est plutôt une logique de rassemblement et de mobilisation. Je le vois comme ça, en tout cas.
Alors
c'est notre volonté.
On va venir à la région, mais avant, quand même, sur cette stratégie-là, il y a un débat au sein des écologistes au niveau national, dans les régionales. Mmh. Chaque région, finalement, il va y avoir autant de régions que de stratégies différentes, avec des alliances parfois avec le PS, sans le PS, avec le Front de Gauche, sans lui.
Non, alors il n'y aura aucune région avec des alliances avec le Parti Socialiste.
D'accord.
Et ça, pour le coup, il faut savoir qu'Europe Écologie Les Verts est un parti très décentralisé. Donc chaque région a pris sa propre décision. Ce n'est pas l'échelon national qui impose aux échelons régionaux du mouvement Europe Écologie Les Verts. Et sans nous concerter, on a tous pris cette décision à un moment donné de ne pas partir avec le Parti Socialiste, en tout cas. Donc dans certaines régions, ce sera les écologistes, ce sera des listes écologiques, comme Emma Cosse en région Île-de-France, qui est sur une stratégie plutôt d'affirmation de l'écologie. Et nous, en fait, en PACA, on va plus loin, quelque part, en essayant de faire ce grand rassemblement, ce nouvel espace politique à gauche.
Que dites-vous de ce qui s'est passé cet été au niveau de l'Université d'été des Verts, des mouvements et des tensions à nouveau au sein d'Europe Écologie Les Verts? Mmh. Est-ce que ça parasite ça votre début de campagne? Qu'est-ce que ça dit de ce rapport à la politique? Alors vous avez quand même les deux responsables, présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont claqué la porte et qui créent leur propre formation.
Alors, pour les militants d'Europe Écologie Les Verts, ça n'a pas été trop une surprise, puisque ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il y a des désaccords importants et une très mauvaise ambiance au groupe parlementaire, en fait. Il faut savoir que j'étais avec mes autres collègues tête de liste régionale aux journées d'été de LV. Nous, on subit, en fait, cette situation qui est quand même très parisienne, au fond, qui touche beaucoup les deux groupes parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui est très localisée, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais. Nous savions aussi que François-Michel Lambert était sur le départ, même avant cet été.
Alors qu'il est le député écologiste des
Bouches-du-Rhône. De Gardanne, voilà. Donc, vous savez, moi je l'ai pris comme un fait, comme des départs. C'est toujours dommage, même si je suis pas d'accord avec eux, parce que ça témoigne d'une mauvaise ambiance. Et en fait, moi, ça m'a plutôt validé la stratégie, pour le coup, puisque j'ai vraiment commencé toute ma campagne sur cette démarche de région coopérative. J'ai vraiment pas du tout commencé la campagne sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, les écologistes contre le reste du monde, pas du tout. Cette démarche de région coopérative, elle s'adresse vraiment à des citoyens qui peuvent être encartés, pas encartés, de reconstruire ensemble une démarche citoyenne, un projet régional, de s'ouvrir à d'autres partis politiques. Et du coup, ça m'a plutôt validé cette stratégie de ne pas trop s'enferrer dans des débats internes de partis politiques qui nous discréditent et puis font que il y a beaucoup de gens qui regardent ça de loin en se disant quand est-ce qu'ils vont se mettre d'accord, c'est toujours les mêmes disputes, ça nous intéresse plus. Donc moi, je ne polémique pas sur tous ces départs et j'essaye tout simplement d'intéresser les électeurs à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire une élection régionale sur un projet régional, des valeurs et puis un renouveau à gauche.
D'accord. En même temps, vous êtes positionné dans le débat, c'est-à-dire que vous faites partie dans la mouvance des écologistes, de ceux qui pensent que c'est à gauche que l'écologie doit se construire et une gauche combative, on va dire. Comment la définir, une gauche
Oui, ce qu'on appelle, nous, l'écologie de la transformation. Mm-hmm. Oui, bien sûr, oui. J'entends souvent dire que les partis écologistes ne devraient pas exister et que l'écologie, ça devrait être dans tous les partis. Je rencontre des électeurs, des citoyens qui me disent ça de temps en temps. Je leur réponds toujours, oui, pourquoi pas, si c'était possible, ce serait bien. Mais j'explique aussi souvent que, en tant qu'élu, j'ai bien vu que si on n'était pas là, l'écologie, l'environnement, ça arriverait toujours en numéro 2 ou en numéro 3 dans les priorités. Donc je vois bien, moi, qu'on a toujours besoin d'un parti écologiste. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs manières de faire de l'écologie. Il y a une manière par en haut, autoritaire, ce qu'on appelle un peu trop technocrate. Souvent, j'entends dire l'écologie, c'est compliqué, c'est complexe, c'est de la réglementation, on n'y comprend trop rien, c'est trop technique. Nous-mêmes, quand on part dans nos débats sur la transition énergétique, des fois, on perd un peu les gens. Et donc, moi, je suis très consciente qu'il faut une écologie sociale, populaire, sur des thématiques très simples, comme la propreté, les déchets, la facilité de se déplacer, ce qu'on mange dans nos assiettes. Et je sais que pour ça, il faut parler simple, s'adresser à tout le monde et aussi combattre des gros lobbies, des gros lobbies industriels. Ce qui fait que souvent, on se retrouve du côté, effectivement, de forces sociales plutôt qui revendiquent et qui sont, c'est vrai, dans la lutte sociale ou dans la lutte environnementale.
Alors, un mot peut-être sur le bilan, avant de se projeter. Vous avez un bilan à la région, les écologistes, c'est un groupe de 20 élus, c'est pas rien. Malgré tout, minoritaire dans une majorité à laquelle vous participiez. Vous avez répondu, alors je ne sais pas si vous assumez cette déclaration à un journaliste, que vous faisiez le constat que ce que l'on a fait n'intéresse pas les gens, que le bilan n'est pas forcément ce qui mobilise des électeurs. Mais enfin, quand même, alors déjà, pourquoi ce constat? Effectivement, c'est difficile d'intéresser... parce que c'est technique, la région, parce que c'est des dossiers techniques, parce que c'est...
Parce que on ne fait jamais l'actualité. Alors, vous savez, on a un site internet que les gens peuvent aller consulter. J'ai fait aussi un petit blog d'élus pendant 5 ans. Il doit y avoir 200 articles dessus. Je crois qu'en 5 ans, on a dû faire 300 communiqués de presse avec le groupe des écologistes. Ça perce très rarement le mur médiatique, vous savez, des élus qui disent « Oh, regardez, on a réussi à faire tel dossier » et qui essayent de communiquer en positif, généralement ça n'intéresse pas les médias. Donc moi j'ai fait le constat effectivement que je trouvais qu'on avait rempli notre mandat très sérieusement. D'ailleurs, peut-être que si on parle pas assez de nous, c'est que on n'est pas dans les pages scandales, on n'est pas dans les pages affaires. On n'a pas détourné d'argent et donc on fait notre boulot.
Karine Zeribi, par exemple, qui
n'était pas au groupe des conseillers régionaux.
Qui n'était pas conseiller régional, effectivement, qui avait des responsabilités au niveau marseillais,
voilà.
Qui est mise en examen cet été.
Exactement. Donc, c'est vrai que je n'étais pas d'accord avec ce type de pratique. Donc, juste pour terminer, pourquoi j'ai dit ça? c'était une frustration d'élu, mais je n'en tire pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler du bilan. Cette frustration d'élu, c'est cette frustration-là qui m'a conduit à créer la région coopérative. C'est-à-dire que je me suis dit, aujourd'hui, les politiques régionales sont trop loin des citoyens. Il faut vraiment qu'à l'avenir, on arrive à construire des politiques de transport ou des politiques économiques où les citoyens y contribuent directement tout au long du mandat, qu'on mette en place un réseau de citoyens avec lequel on travaille tout au long du mandat pour que quand on arrive à la fin d'un mandat, ben, on n'ait pas la sensation d'avoir travaillé tout seul dans le vide. Et cette région coopérative, c'est donc un réseau citoyen qu'on lance dans la campagne et que de toute façon, nous garderons avec nous pendant tout le prochain mandat.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille. On vient à la campagne, on vient au projet. Quand même, sur le bilan, de quoi vous êtes fier en fait sur cette mandature? Qu'est-ce que vous revendiquez en tant qu'écologie sur ces résultats?
Alors, à titre personnel ou au titre du groupe? Il y a
peut-être
plusieurs choses,
allez,
les deux. Je suis assez fier, par exemple, qu'on ait tenu notre programme de 2010. Par exemple, vous pouvez prendre le programme de 2010, on avait une proposition phare qui était réhabilitation thermique des logements. On l'a mis en place et c'est 25 000 logements sociaux réhabilités avec l'aide de la région. Donc ça permet de faire des économies d'énergie. Il y avait aussi, moi c'était mon dada à l'époque, la problématique de la reconversion industrielle avec la transition énergétique. Quand on disait ça en 2010... c'était pris un petit peu pour des grandes idées qu'on allait avoir du mal à mettre en pratique. Et moi, me suis régalée, moi, pendant tout ce mandat, d'aller rencontrer les chercheurs, tous ceux qui sont dans l'innovation, les PME innovantes. Et j'ai pu, moi-même, en tant qu'écologiste, identifier un certain nombre de projets innovants sur la transition écologique et énergétique qui, aujourd'hui, voient le jour. Donc, par exemple, les éoliennes flottantes dont on parle beaucoup, qui vont arriver à Fos-sur-Mer, ça a été une de nos batailles pour que la région participe au financement dès 2010-2011. Toutes les recherches sur l'économie circulaire, le biocarburant à base de microalgues, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux électriques intelligents, même les ballons dirigeables.
Alors, j'ai vu ça dans la profession de foi, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de ballons dirigeables? On ne les a pas vus passer.
Ils vont arriver, il y a une usine qui va s'installer à Istres. Et c'était, quand je parlais de ça en 2010, je passais pour une énergumène, mais il se trouve que le pôle aéronautique Pégase, qui est donc le pôle de compétitivité qui travaille sur l'aéronautique en PACA, avait ce projet dans ses cartons. Et moi, je l'ai beaucoup poussé, je l'ai beaucoup soutenu. Et aujourd'hui, il va se réaliser avec un investisseur qui va mettre en place cette usine. Et puis après, moi, j'ai beaucoup porté aussi un fonds d'économie responsable qu'on appelle le CEDRE et qui permet à des petites entreprises innovantes d'avoir une aide de la région en échange d'un plan d'innovation sociale et environnementale. Donc il y a certaines de ces petites entreprises qui ont eu le trophée RSE PACA, par exemple. Ça, c'est une politique qu'on a mis en place et qui répond à l'idée qu'on aide les entreprises, mais sur critères sociaux et environnementaux. Et puis, il y a tout le volet économie sociale et solidaire que nous avons défendu, continué à développer. Par exemple, moi, j'ai eu aussi... la joie de contribuer au développement des ressourceries en PACA. Donc là, une ressourcerie, c'est un endroit où on ramène ces vieux meubles pour qu'ils puissent être réutilisés, recyclés. Et aujourd'hui, on est en train de doubler le nombre de ressourceries en PACA parce qu'on a mis en place un réseau régional des ressourceries qui propose des formations aux porteurs de projets et ça permet de développer ce type d'activité économique.
Alors,
donc,
oui.
Je termine juste parce que j'ai donné beaucoup d'exemples, mais moi, j'ai toujours été sur la philosophie que l'environnement et l'emploi, ça doit marcher ensemble. Et je trouve qu'on a beaucoup d'exemples pour le montrer.
Alors inversement, dans le bilan, les dossiers qui fâchent, les dossiers qui fâchent et qui font qu'il faut faire différemment.
Les dossiers qui fâchent, eh bien, c'est toujours que l'écologie, je l'ai vu, c'est toujours quand même une conviction qu'on doit porter haut et fort. Par exemple, les éco-conditions dans toutes les politiques régionales, on n'a pas réussi à les mener jusqu'au bout. Effectivement, il y a la question d'ITER. Donc, ITER est un projet de recherche hein, sur la fusion nucléaire à Cadarache, je le rappelle. Donc, c'est un très gros projet de recherche international. Donc, on a quand même réussi là-dessus à étaler le financement et le réduire. Mais on a toujours voté contre, mais il est resté. Il y a eu aussi, à notre avis, certains grands, grosses dépenses qui, à notre avis, n'étaient pas faites pour la région, comme la contribution au chantier de la L2 à Marseille. Projet déjà en soi qu'on peut beaucoup discuter sur est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui.
La fameuse rocade.
Il y a aussi toujours le fait que la région finance beaucoup de projets routiers, alors que normalement c'est la compétence des départements. Et nous, on a toujours voulu donner la priorité au ferroviaire sur le rail, donc c'est le cas. Mais on a toujours trouvé qu'on donnait trop d'argent sur les routes. Bon, puis voilà, et puis après, si vous voulez, c'est des dossiers au quotidien. Ou si on n'a pas des élus de conviction, et pour le coup, je reconnais aussi que mes collègues du Front de Gauche, ils ont été là aussi sur leur dossier pour les faire passer. Des fois, c'est un petit peu fatigant. Il faut toujours se battre pour réaffirmer les mêmes choses et faire passer des dossiers qu'on veut défendre.
On vous a senti sceptique aussi sur des équipements type la Villa Méditerranée,
oui.
qui peut-être symbolise un certain type de gouvernance de Michel Vauzelle. On parlait de son départ, mais c'était un exemple de choses qui vous ont déplu dans les compromis de la majorité sortante.
Oui, c'est un projet qui date d'il y a longtemps, en fait. Quand je suis arrivée en 2010, il était déjà voté, moi par exemple. Je pense que ça fait partie de ces grands investissements dont la région n'a plus les moyens aujourd'hui. On sent bien que ça a été décidé il y a deux mandats, en fait, à l'époque où la région avait de l'argent. Et donc, effectivement, on n'avait peut-être pas la même conception à l'époque des moyens financiers de la région et du fait que ça pouvait peut-être un peu choquer de mettre tout cet argent sur un équipement comme celui-là. Et puis surtout, moi, ce qu'on a beaucoup critiqué, c'est qu'on s'est retrouvé avec un bâtiment qui a changé plusieurs fois d'objet. Qu'est-ce qu'on va en faire de la Villa Méditerranée ? Alors, est-ce que c'était culturel ? Est-ce que c'était un projet pour faire de la diplomatie méditerranéenne ? Est-ce qu'on va faire les deux ? Bon, donc c'est vrai que c'était un petit peu perturbant de se retrouver avec ces débats. Alors que voilà, c'est un équipement quand même qui a coûté cher, qui coûte cher en fonctionnement, et on se retrouve à un an de la fin du mandat à se demander encore à quoi il va servir. Bon, maintenant, je dois dire que maintenant qu'il est là, il est là, on va pas le détruire, et donc il faut qu'il trouve sa place et son usage. Donc je reconnais aussi que maintenant, ils y font beaucoup de conférences, il faut qu'il soit utilisé au maximum sur des conférences grand public, des expositions. Bon, j'espère qu'elle va finir par trouver sa place, cette Villa Méditerranée.
Alors venons-en à la région coopérative. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Donc, est-ce que c'est un concept un petit peu là, un emballage de campagne ? Quand on entend parler de démocratie participative, est-ce qu'on est dans le registre, j'imagine, mais souvent on a affaire quand même à des dispositifs un peu gadgets, difficiles en tout cas, même quand il y a une volonté de les appliquer, à mettre en place. C'est difficile de mobiliser les gens en ce moment. Comment ça se passe concrètement ? Il y a des réunions, il y a des les gens se déplacent.
Oui, on organise. Alors, je réexplique un peu l'idée. On est parti du constat donc de ce décrochage entre les citoyens et la politique. En tant qu'écologiste, on voit très bien que la société s'organise toute seule, sans forcément parfois attendre du politique. On le voit dans les mouvements Alternatiba, par exemple, en ce moment, sur la COP21, à quel point on est aussi sur les citoyens qui bricolent leurs propres solutions sans forcément aujourd'hui attendre beaucoup du politique, parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Donc on s'est dit, il faut organiser aussi ces initiatives citoyennes, il faut mettre en valeur les solutions en positif, et donc il faudrait que la région à l'avenir, ce soit la région des solutions, une région coopérative, qui finalement mette en relation les projets des citoyens entre eux, à l'horizontale, et puis aussi qu'elle puisse faire une interaction entre ses citoyens et les élus. Donc ça s'applique aux politiques publiques régionales. on en fait aussi un espace politique pour la campagne, et donc c'est le périmètre de notre liste aux élections régionales, et c'est bien grâce à la région coopérative qu'on peut aujourd'hui aller plus loin que simplement une seule liste écologiste et l'ouvrir à des composantes du Front de Gauche ou citoyennes. Donc c'est, moi c'est, j'en fais vraiment pas un gadget, je pense que c'est même une nécessité, et que si on le fait pas, la région et les autres mêmes collectivités locales à l'avenir seront complètement dépassées par les citoyens. Quand on voit le covoiturage aujourd'hui, les citoyens qui s'organisent avec du blablacar ou voilà, bah si on le prend pas en compte, on va, à un moment donné, il faudra pas s'étonner que plus personne prenne les TER ou les autocars. Donc il faut que les politiques régionales viennent sur ce type de contribution des citoyens. J'ai un autre petit exemple sur la région coopérative. C'était une jeune femme qui m'avait dit « Je m'intéresse à l'économie sociale et solidaire, mais où est-ce que je pourrais trouver les offres d'emploi ?» Je lui ai dit « Oui, c'est vrai, on finance des tas de structures. Après tout, tu as raison, il faudrait qu'on publie les offres d'emploi des structures qu'on finance ou qu'on aide à la région. » Et donc, on a eu l'idée d'une bourse d'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire que là aussi, la région, elle mettrait en place un nouveau service avec des offres d'emploi. Après tout, avec toutes les aides qu'on donne aux associations, aux entreprises, les citoyens pourraient voir concrètement les offres d'emploi qu'il y a derrière. C'est un peu ça la philosophie de la région coopérative, c'est cette idée de transparence, de partage des données et de contribution directe. Voilà.
Les citoyens coopérateurs, vous utilisez cette expression-là, concrètement, ils peuvent être... Alors vous dites qu'ils vont, ils peuvent, certains seront tirés au sort, deviendront des porte-parole, il y aura une présence sur les listes ou pas? Ça, j'ai pas compris la
alors,
mécanique.
On lance un appel à citoyens coopérateurs. D'ailleurs, on l'a lancé cette semaine, en fait. Tous ceux qui sont d'accord avec nos valeurs et la démarche de la région coopérative peuvent s'inscrire sur le site région-coopérative.org. À partir de là, on devient citoyen coopérateur. On peut faire plusieurs choses. Simplement rester informé de la campagne. On peut candidater pour être sur nos listes, puisque il y a quand même 130 noms sur la liste au régional, et donc il va y avoir une ouverture à des candidats de société civile. Et moi, j'ai eu l'idée de valoriser des non-candidats. Et je me suis dit, bah, ce serait bien que dès qu'on aura pas mal de citoyens coopérateurs, il y a souvent des gens qui ont un message à porter ou un projet à faire connaître ou qui ont envie d'être en interaction avec nous. Et donc, je pense que par exemple, vers la fin octobre, on pourrait imaginer, on imaginera d'avoir des porte-parole citoyens parmi les non-candidats qui, en fait, pourront nous interpeller ou faire connaître leurs projets. Et moi, j'aimerais que, du coup, ce réseau de citoyens coopérateurs, en fait, ils se lancent pendant les élections, mais j'aimerais, justement, qu'ils nous suivent pendant tout le mandat. Parce que moi, en tant qu'élu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a manqué pendant 5 ans. C'est-à-dire cette impression de communiquer dans le vide sur ce qu'on faisait. Et donc, j'aimerais bien que, par exemple, tous les 6 mois, eh bien, les porte-paroles citoyens, ils tournent et qu'ils puissent être en interaction avec les élus, par exemple.
Ce dispositif ce processus dit quelque chose en creux, c'est-à-dire que vous prenez acte que quelque chose ne fonctionne pas dans les partis classiques, y compris le vôtre.
Oui, bien sûr.
Est-ce que finalement, c'est peut-être bien, mais est-ce que ce n'est pas un aveu aussi d'impuissance par rapport à ces organisations partidaires? Ou est-ce que les choses peuvent coexister?
Moi, j'ai fait le choix qu'elles essayent de coexister. Les partis politiques ont aujourd'hui surtout une fonction, c'est vrai, de sélection de candidats, mais je trouve qu'ils ont perdu de leur force de proposition. Puis il y a beaucoup de... Voilà, il n'y a pas assez de renouvellement. Il y a trop de batailles d'ego, on ne se tourne pas assez vers la société. Donc moi, ils sont nécessaires, les partis politiques. Je pense que si on supprime les partis politiques, on n'arrive pas non plus à organiser durablement les idées. Il faut quand même des partis politiques pour représenter de grandes idées. Mais je suis d'accord que ça ne suffit pas, si vous voulez. Il faut qu'on... D'ailleurs, c'était l'idée d'Europe Écologie au départ. Donc quelque part, je m'inscris dans la continuité d'Europe Écologie et dans cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Verts de l'époque, en 2009, on avait... Moi, quand j'ai été élue en 2010, c'était sur une liste où il y avait 50% de postes réservés à des candidats en dehors des Verts. Et après, on a appelé ça Europe Écologie.
Alors, dans le mensuel Le Ravi qui sort en octobre, qui est le premier dossier pour la campagne des régionales, on s'interroge on fait un constat, comme tout le monde, c'est ce désamour qui existe entre les électeurs ou les abstentionnistes et les partis et les rendez-vous électoraux. Et on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est une crise de l'offre, c'est une crise de la demande. En tout cas, on a l'impression qu'on n'est pas loin de la faillite et de quelque chose d'assez grave avec ce populisme et ce vote d'extrême droite très très menaçant dans la région. Vous percevez aussi cette situation?
Oui, et je vais vous dire, moi je suis quand même candidate tête de liste régionale et parfois je suis même surprise, je ne me reconnais pas dans ce qui peut m'arriver parfois des médias parisiens, par exemple sur Europe Écologie Les Verts. Je trouve que la politique est devenue une espèce d'énorme show business et effectivement... je pense qu'avec la liste qu'on veut présenter au régional, on va pas prendre cette direction-là. Vous savez, c'est comme le cinéma. J'ai l'impression qu'il y a des super productions hollywoodiennes. Alors, c'est du Estrosi, c'est du Le Pen. Alors, aujourd'hui, la politique, c'est devenu ça. Avant, c'était des artistes qui venaient en politique. Maintenant, c'est des politiques qui viennent dans des salles de spectacle, quoi, comme le fait Sarkozy. Donc, moi, vous savez, j'en suis autant spectatrice que bien d'autres citoyens. Je m'interroge aussi beaucoup là-dessus. Donc, c'est vrai que j'avoue que j'ai l'impression d'arriver avec un film d'auteur indépendant qui va essayer de trouver sa place au box-office. Mais, en tout cas, c'est une bonne image pour décrire notre stratégie. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, cette forme de show business de la politique. Par exemple, si on prend la famille Le Pen, pourquoi ça marche? Parce que c'est les vieilles recettes du feuilleton américain. Il y a le grand-père, la petite fille, la nièce, le clan familial, il y a des disputes. Les gens regardent ça, ils ont l'air absolument pas dérangés, apparemment, vu le score dans les sondages. Estrosi qui nous dit « j'ai beaucoup de points communs avec Sylvester Stallone ». Enfin, c'est quand même... Moi-même, j'en suis assez stupéfaite. Voilà. Et du coup, trouver sa place dans ce type de show business, c'est sûr qu'en tout cas, moi, j'ai fait le choix de pas aller dans cette direction-là. Voilà, j'essaye de croire encore à une politique normale.
Est-ce que vous pensez pouvoir être audible compte tenu de la situation et compte tenu des petits moyens et de ce que vous décrivez, c'est-à-dire de la politique spectacle? Comment on fait pour... l'encéphalogramme semble plat en France. Il y a en décembre des élections en Espagne, par exemple, avec plein de problématiques, mais ça fourmille. Alors on a connu les indignés en Espagne. Il y a Podemos, il y a eu des dynamiques dans des municipalités à Barcelone, à Madrid.
On fait deux choses.
À Marseille, à Nice.
À mon avis, on fait deux choses. Alors après, on verra si on a le temps suffisant et peut-être bon. On fait la petite fourmi, c'est-à-dire que. Moi, j'ai commencé à faire des déplacements de proximité. On renoue le contact avec tous les réseaux. On essaye justement de ne pas faire de la politique de la même manière que les autres. Bon, ça prend du temps, c'est sûr. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de parler, prendre le temps de réexpliquer ce que c'est que le mode de scrutin au régional, faire beaucoup de petites interviews dans tous les territoires. Voilà, donc c'est de la... On fait sa petite fourmi, ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses qui me remonte aussi, c'est peut-être on pourrait revoter si vous arrêtiez tous de vous disputer. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que moi je pousse beaucoup cette stratégie d'alliance citoyen Front de Gauche ELV, parce que je ressens quand même que ce serait apprécié par, en tout cas, une partie de l'électorat qui souvent quand même peut hésiter parfois. Imaginons quelqu'un qui veut pas voter PS en ce moment, bon, à cause de la politique du gouvernement. Souvent, il peut hésiter. Est-ce que je vote vert? Est-ce que je vote Front de Gauche? Donc, ce serait quand même aussi apprécié qu'on fasse tous cet effort de nous rassembler et puis de mettre au deuxième plan nos petites disputes.
Et voilà. Pensez que le Parti communiste peut aller aussi sur ce terrain de la participation, laisser des places, pas tirer au sort, hein, j'entends.
Pas vous leur demander.
Ils ont évolué sur ces questions-là, enfin, en tout cas ceux que vous côtoyez à la région.
Ils ont, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense quand même qu'ils ont le même diagnostic que nous. Après, ils ont peut-être pas la même façon de prendre les choses. C'est vrai qu'ils ont une longue histoire. Ils ont, je pense, peut-être aussi des militants parfois un peu plus âgés. J'espère que je vais pas me faire disputer, mais je pense qu'au niveau des Verts, par exemple, ou de mouvements comme le Parti de gauche, voilà, pour prendre deux cas différents, on est un peu plus jeunes aussi généralement. Donc moi, après, je pense que le PC, ils ont un héritage à transmettre aussi. C'est pas toujours évident. Il faut qu'ils puissent faire cette transmission sur des nouvelles générations qui sont peut-être pas non plus forcément encartées au Parti communiste. Et si on arrive à faire tout ça, je trouve que ça peut être positif, voilà, d'arriver à faire cette transmission et puis de mélanger aussi nos façons de faire.
Le Front National, un mot, cette région est un symbole de sa présence, de son dynamisme, mais en même temps aussi de ses problèmes, hein, avec le scénario des disputes familiales. On entend tout et n'importe quoi. Par exemple, Serge Klarsfeld disant que Christian Estrosi leur empare des libertés républicaines et de l'ordre, qui votait pour lui pour faire barrage au Front National. Effectivement, votre partenaire socialiste vous reproche de ne pas être discipliné, de ne pas se ranger derrière lui pour faire barrage au Front National. Mais comment, lorsqu'on désigne l'étranger, le musulman comme source de tous les problèmes, comment on arrive à combattre ce phénomène-là ?
En essayant de faire comprendre que ce n'est pas ça le problème essentiel. Voilà, en essayant de revenir par exemple sur la question sociale. On n'a pas le même rapport aux étrangers s'ils sont riches ou s'ils sont pauvres. On voit bien d'ailleurs, puisqu'on est à Marseille, j'habite en plus les quartiers nord dans le 13e secteur, donc c'est chez Monsieur Ravier. Vous avez vu dans le débat qu'ils ont dit on s'occupe des réfugiés, c'est dégueulasse, on s'occupe pas des SDF et des pauvres Français. Mais qu'est-ce qu'ils font le Front National dans le 13-14 en ce moment? Ils sont en train d'empêcher des habitants de la Savine d'être relogés à Château-Gombert. Voilà. Alors là, pour opposer le voisin avec le voisin, c'est parfait. Donc on n'est même plus dans des questions de réfugiés, voilà. Donc moi, je pense, si vous voulez, le fil conducteur de tout ça, c'est la peur de l'autre. Donc nous, notre fonction, elle est de combattre cette peur et de réaffirmer des valeurs de solidarité malgré tout. Si on ne le fait pas, qui le fera ? Même les patrons, je vais vous dire, même le MEDEF, quand vous regardez ce qu'ils disent, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils disent ? On ne peut pas embaucher parce qu'on a peur de ne pas pouvoir licencier. C'est quand même extraordinaire. On a affaire à des entrepreneurs qui ont un discours de peur du risque. Parce que le risque, ce n'est pas que la bourse, c'est aussi à un moment donné, j'embauche, je fais confiance à des jeunes, je fais confiance à des salariés. Et les salariés qui vont produire pour moi, ce n'est pas forcément des gens qui vont mal travailler et que je vais devoir licencier. Donc on est quand même dans un état d'esprit dans ce pays assez dramatique. Donc moi j'estime que notre fonction... Ben c'est d'aller voilà, à l'encontre de ça, parce que je pense que c'est ce qui paralyse même l'économie française aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a peur de tout, plus personne ne bouge. Et donc, c'est pour ça que dans cette campagne, on voudrait faire une campagne en positif. C'est-à-dire qu'il va y avoir bien sûr nos indignations, et avec le Front de gauche, on sera bien placé pour les porter, ces indignations. Mais c'est pour ça qu'avec l'écologie, on veut... présenter l'écologie des solutions. On veut montrer les gens qui innovent, les gens qui se débrouillent, les porteurs de projets, qu'il est possible voilà, d'avoir des solutions concrètes et simples contre le réchauffement climatique, contre la peur de l'autre. Et ben, nous, on fera ce boulot-là, puisque en face, ils ne font que de la peur et de la haine de l'autre. Donc, c'est marrant parce que finalement, c'est bien... la gauche qui va revenir à un discours, j'espère, plus positif. Je pense que notre fonction, c'est aussi de porter le positif aujourd'hui dans les esprits.
Quand vous avez démarré votre campagne déjà interne en disant je veux être candidate pour cette élection régionale, vous avez insisté sur le fait que vous n'étiez pas candidate à tous les mandats, mais que ce mandat-là, cette élection-là, était votre élection.
Ouais.
Et alors là, c'est étonnant parce que ça fait pas rêver grand monde, la région. La région est une institution, y compris avec les réformes qui ont eu lieu, selon vous, qui permet d'agir, qui n'est pas une institution fantôme, impuissante, parce qu'on reproche beaucoup ça aux élus aussi, c'est-à-dire de parfois d'être malhonnêtes, de renoncer à leurs promesses, mais aussi parfois d'être impuissants, parce qu'ils sont finalement pas outillés pour faire changer les choses. Vous dites, la région permet d'agir, de faire changer, de faire bouger des dossiers. Et c'est l'institution qui m'intéresse. Alors pourquoi ça c'est
Bah parce que pendant 5 ans, je vous ai décrit un petit peu, je vous ai donné quelques exemples de tout ce qu'on a pu faire. Et je ne confonds pas le fait qu'on n'arrive pas à communiquer ou à faire connaître ce que fait la région. Pour moi, c'est un problème de communication. Mais ça ne veut pas dire que la région ne peut rien faire. Au contraire, j'ai vu tout le contraire, moi. La région peut agir dans les domaines de l'environnement avec ses parcs naturels régionaux. Elle peut agir dans le domaine des transports avec les TER. Et demain, elle va aussi avoir plus de compétences, puisque la loi lui confère des compétences renforcées dans le domaine des transports, de l'économie, de l'aménagement du territoire, de l'environnement. Et puis, il y aura toujours aussi la vie associative, la culture, la solidarité. Donc,
Prenons un dossier, par exemple, les transports, les TER. Après toutes les années d'une gouvernance socialiste et écologiste et front de gauche, les TER peinent toujours à démarrer à l'heure, à arriver à l'heure. Et là, il y a des responsabilités qui ne sont pas uniquement des responsabilités locales et régionales.
Oui.
Mais on peut, pour vous, on peut encore avancer, mieux avancer dans une prochaine mandature sur ce dossier, par exemple.
Oui, parce qu'il faut. Oui, parce que déjà, la convention avec la SNCF va être renouvelée en 2016. Donc, il faut bien voir que quand on passe une convention avec la SNCF, la dernière a été passée il y a presque 10 ans. Donc après, c'est un contrat qui régit les relations entre la SNCF et son financeur, la région. Donc on peut toujours passer des avenants, mais c'est vrai que ça rigidifie les relations. Donc par exemple, si on voulait introduire une garantie voyageur ou renforcer des pénalités en cas de retard ou revoir une meilleure contribution des usagers au service de transport, c'est à l'occasion de cette renégociation avec la SNCF qu'on peut le faire, et donc c'est un des enjeux du prochain mandat. Deuxièmement, il faut passer des TER à la mobilité en général. Demain, la région va être un opérateur de mobilité régionale. C'est-à-dire qu'elle ne va plus seulement être responsable des TER, elle va aussi pouvoir se coordonner le transport par autocar, ce qu'on appelle les transports interurbains aujourd'hui, jusqu'au transport scolaire. On a déjà commencé à réfléchir au rôle des gares, pour que les gares soient une manière d'aménager des quartiers, mais aussi des points qu'on appelle multimodaux, c'est-à-dire que demain, il ne faut pas penser simplement le transport par TER, il faut penser le déplacement de son point de départ à son point d'arrivée. Et en fait, la région va avoir un rôle de coordinateur de tous ces transports, et c'est pour ça que dans nos propositions, on a pensé à une plateforme de mobilité en fait qui s'appellerait PACA Mobilité 2.0. Ça existe déjà, pacamobilité.fr. Vous pouvez aller sur le site, vous rentrez votre point de départ, votre point d'arrivée, ça vous sort le meilleur trajet possible en transport collectif. Bon, c'est une information. Nous, on voudrait, tiens, logique région coopérative, que les usagers puissent contribuer maintenant sur ce site PACA Mobilité, pouvoir nous alerter, par exemple, alerter les élus quand il y a un mauvais horaire de train qui est mal coordonné avec un bus ou une navette et que du coup, on perd du temps sur une correspondance. Et donc demain, je pense que le rôle de la région va vraiment être de faciliter le transport au-delà même des TER. Quant aux TER eux-mêmes, le bilan de la majorité sortante, il est quand même une très forte augmentation de la fréquentation, puisqu'on avait mis en place notamment la carte Zoo, qui a entraîné beaucoup de trains supplémentaires et de fréquentation sur les trains. Après, on se heurte effectivement à l'organisation du système ferroviaire actuel, c'est-à-dire qu'on fait passer de plus en plus de trains sur un réseau de plus en plus usé. On a beaucoup d'investissements à faire sur le réseau ferroviaire. Et effectivement...
Strozzi, par exemple, a dit la carte Zoo, je la supprimerai.
Oui, on l'étendra.
Je ferai mieux et je ferai rouler, on pourra la prendre, on pourra utiliser
les TGV. Bien.
Vous êtes d'accord?
Alors, oui, Christian Strozzi, c'est Sylvester Stallone, il va être conducteur de train, il va être ouvrier dans les ateliers de maintenance, il est fabuleux, quoi. Hein. C'est Superman. Non, je pense que, si vous voulez, il y a un problème de production du système ferroviaire. On améliore les rames, on a acheté de nouvelles rames qui vont être mises en circulation cette année. Donc ça va améliorer le trafic sur notamment le Marseille-Nice. Et puis il faut organiser toute la maintenance en fait. On a des ateliers, comme il y a de plus en plus de trains, la maintenance de la SNCF a du mal à suivre. Il a fallu, et ça a été socialement difficile, passer au travail de nuit et le week-end dans les ateliers de maintenance. Et parfois s'il y a des retards de train, c'est que la maintenance des rames ou le nettoyage nettoyage des rames a du mal à suivre. Et donc pour ça, il faut continuer à travailler entre la région et la SNCF pour mieux organiser le travail en atelier, par exemple. Donc vous voyez, ce sont quand même des réponses qui sont pas si simples et qui relèvent du système ferroviaire et de son organisation au niveau régional. Et je me répète, ça c'est l'enjeu du contrat en 2016.
Je le disais au début dans votre portrait, vous venez de la gauche, enfin plutôt une tradition politique où on avait envie de changer le monde, changer la vie et plutôt partir par le haut que par le bas. Aujourd'hui, vous pensez que pour réinventer la politique, réenchanter, ou en tout cas plus modestement, renouer avec les citoyens, les abstentionnistes, il faut travailler au concret sur des dossiers, des petits dossiers à une échelle locale. C'est ça votre conviction, ce que vous allez entre autres mettre en débat et en proposition dans la campagne?
Moi, c'est toujours ma philosophie, ça a toujours été les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, quoi. Donc effectivement, on a des valeurs, des convictions. Un élu tout seul, j'arrête pas de le dire tout au long de cette émission, un élu tout seul, même quand il fait le meilleur travail possible, s'il est pas en lien avec une base sociale, avec des citoyens, effectivement, il est très démuni et il se fait pas entendre. Donc il faut cette dynamique de mobilisation des citoyens dont je parle depuis le début. Et puis il faut travailler ces dossiers concrètement, bien sûr, ça fait partie de la confiance à renouer entre les citoyens et leurs élus.
On a vu en Grèce, où pourtant il y avait une forte poussée, une forte demande démocratique, un pays qui avait envie de s'insurger par rapport à l'ordre économique européen, sans parler de l'ordre économique mondial. La difficulté qui peut être celle de ce pays pour arriver à mettre en place une alternative. La région PACA, dans ce contexte-là politique, peut, malgré tout, un élu à la région PACA peut faire bouger des dossiers. Ça a du sens d'aller mettre un bulletin de vote pour gérer cette institution.
Aux élections régionales, on va pas voter pour ou contre sortir de l'euro, hein. C'est pas ça l'enjeu. Par contre, le débat, c'est comment je me déplace mieux, comment je vais mieux à l'école dans mes lycées, comment je développe l'économie. Donc oui, là-dessus, oui, je me répète, la région peut agir. Alors, un des enjeux, c'est qu'elle n'agisse plus toute seule. Voilà, effectivement, qu'elle soit moins isolée, qu'elle soit mieux connue, qu'elle travaille mieux avec les autres collectivités, voilà. Mais une région, elle a un effet de levier, sinon, effectivement, il faut arrêter la politique tout de suite. Mais je ne compare pas l'élection régionale en PACA avec ce qui se passe en Grèce, qui est effectivement un petit pays bien mal considéré au sein de la Grande Europe. Par contre, je trouve que nous, en France, on fait partie des deux pays qui sont le noyau dur de l'Europe et qu'on a des responsabilités renforcées à agir, nous, dans notre pays, par contre.
On arrive au terme de cette émission. Je dis simplement aux auditeurs, je rappelle que le RAVI est toujours en bataille pour redresser les bras. On sera au tribunal dans le cadre de notre redressement judiciaire le mois prochain. On a fort espoir de passer en consolidation, de poursuivre l'activité, de continuer à faire vivre cette presse pas pareille. Le pluralisme de la presse, de la presse régionale, vous êtes sensible à cette problématique ?
Ah oui, beaucoup, parce que c'est vrai que, tenez, je vais prendre un petit exemple, celui des Hautes-Alpes. Alors rapidement, c'est un territoire où il y a 150 000 habitants. Quand je vais là-bas, il y a des médias locaux, c'est fabuleux, il y a une convivialité, il y a une démocratie locale très vivante. Et je vois la différence avec Marseille, où 1 million d'habitants, où il n'y a rien, c'est le vide. Et ça entretient, ça tire la politique vers le bas. On n'a pas les moyens d'un débat pluraliste, on n'a pas les moyens d'informer comme il faut nos concitoyens. Eh bien, je vous assure qu'entre Gap et Marseille, les citoyens de Gap sont beaucoup plus au courant de la politique et intéressés par la politique qu'à Marseille.
Merci Sophie Camard.
La grande tchatche. Le ravi. Radio Grenouille.